Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Du coup, on était en vacances quand on a su que j'étais enceinte. Pour la deuxième grossesse, Victor m'a dit, voilà, bon alors, quoi qu'il se passe, je te propose qu'on fasse des photos, qu'on essaye de à la fois s'occuper ce qui nous permettait d'avoir du recul en se disant, le premier trimestre va être long, donc peut-être que faire des photos va nous occuper, et voilà, nous rendre les choses plus faciles. Et donc, quand il est venu me chercher... Le lendemain matin, j'ai été opérée l'après-midi, il est venu me chercher le lendemain matin pour sortir de l'hôpital, il m'avait demandé s'il pouvait venir avec un appareil photo. Et j'ai dit oui, et donc la première photo est dans la chambre d'hôpital quand il vient me chercher.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, la décision de prendre les photos, pour prendre un petit peu de recul, effectivement, toute l'année 2019, ça a été une année d'attente. Il y a toujours cette histoire de dire... Oui, vous allez tomber enceinte en un an et demi, deux ans, c'est la moyenne, vous verrez, pas de problème. Quand Estelle retombe enceinte, donc à l'été 2019, donc on a rapidement compris que c'était un peu, on savait pas trop ce qui se passait, qu'il y avait un truc voilà qui était pas bien parti, mais on a vraiment eu 2-3 jours pendant lesquels les taux étaient bons, puis après les taux ne bougeaient plus, puis il y avait quand même un truc qui disait qu'elle était enceinte, puis on savait plus, et je me souviens très bien, on était donc dans la Drôme parce qu'on passait des vacances dans la Drôme et on était dans un hamac. Et c'est là où je lui ai proposé, c'est là où je lui ai dit, écoute, là, faut qu'on prenne du recul, en fait, sur ce qui se passe. Là, ça fait un an et demi qu'on essaye d'avoir un enfant, en se disant on va courir un 5 km et qu'on est parti sur un marathon. Et là, on arrive au 15e kilomètre, il faut qu'on se pose un minimum, quoi, parce que la ligne d'arrivée, elle est toujours pas là. On commençait vraiment à...
Non, moi, clairement, je commençais à être dingue. Hein.
Ah ouais.
Je commençais à vivre mal, à vivre tout mal.
Le projet photo est né à ce moment-là, dans ce hamac, en se disant, bon, quoi qu'il se passe, comme disait Estelle, on commence à prendre des photos, on verra bien, enfin, c'était qu'il n'y avait pas de projet autre que prendre des photos, et puis on verra bien ce qu'on en fait, mais prendre des photos, et puis après, je me suis rendu compte, d'ailleurs, avec le recul, que c'est aussi, enfin, les dates ont une importance, mais c'est aussi vraiment, donc un an après la fausse couche, qu'on a pris cette décision, qui était, pour moi, un moment... Donc un moment visuel marquant, enfin c'est quelque chose que je me repasse souvent en tête, ce moment-là dans la baignoire, mais qui est un moment que j'aurais aussi aimé documenter, que j'aurais un moment que j'aurais aimé mettre quelque part sur une pellicule, sur une mémoire fixe. Je sais pas de quelle manière, peut-être que j'aurais jamais, enfin même si j'avais été préparé, j'aurais jamais pris la photo à ce moment-là parce que j'avais autre chose à faire, il fallait que je soutienne Estelle, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué et quelque chose que je voyais pas du tout en photo ailleurs, par ailleurs. C'était vraiment autre chose aussi, ça, pour le coup. Le principe du deuil périnatal ou de la fausse couche, dans la photographie, d'une part, ou dans l'art d'une manière générale, c'est quand même très très peu présent. Il y a aucun truc vraiment sur lequel se raccrocher. Il y a un truc à faire, un terrain à défricher, d'une manière ou d'une autre.
Il y avait aussi quelque chose, c'est qu'on essayait d'expliquer aux gens ce qu'on avait vécu. Et comment s'était passée la fausse couche, et que j'avais perdu beaucoup de sang, et qu'il y avait beaucoup de caillots, et que je sais pas quoi, et que la baignoire était rouge, remplie de sang en fait, et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que le sang, et j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas. Et donc c'est là aussi que je me suis dit, que j'ai dit que j'étais d'accord pour les photos, parce que je savais plus comment expliquer aux gens ce qu'on vivait en fait. Donc à un moment je me suis dit peut-être que leur montrer la photo clairement de bah, regardez, vous voyez, c'est ça qu'on vit, ça sera plus clair, ça sera peut-être violent, mais au moins le message sera passé, quoi.
Robert Frank, photographe américain d'origine suisse, disait « L'important est de voir ce qui est invisible pour les autres. » Quand on veut fonder une famille et devenir parent, il y a tant de choses qui sont invisibles aux yeux des autres. Les autres qui ne prennent pas toujours conscience des difficultés, des larmes, de la douleur, du temps très très long qui peut se passer avant qu'un bébé vienne agrandir la famille. Car ce projet parental, il peut mettre du temps avant de se concrétiser justement. On exprime le désir d'avoir un enfant, on essaie d'avoir un enfant, et parfois, on a beaucoup de mal à le concevoir, cet enfant. En tant que couple, on avait songé aux étapes incontournables, l'ovulation, les rapports sexuels, le test de grossesse, les échographies, la naissance. Pourtant, il y a certaines réalités auxquelles on n'avait jamais été confronté et qui s'imposent à nous. Les saignements, les fausses couches, la grossesse extra-utérine, les stimulations, l'entrée dans un protocole de plus en plus médicalisé, la PMA. Parfois, le couple se transforme en équipe pour affronter les diagnostics, les mauvaises nouvelles. Une équipe composée de deux individus qui n'ont pas toujours la même perception des choses, qui ne vivent pas tout au même rythme, mais qui sont prêts à relever de nouveaux défis, main dans la main. Et c'est justement un couple, une équipe, un duo de choc qui va faire aujourd'hui la lumière sur le long chemin que peut représenter l'entrée dans la parentalité. Mes invités ont bien compris que leur parcours serait semé d'embûches, de deuils, de chagrins, mais aussi de beaucoup d'amour avant de réussir à avoir un enfant tous les deux. Convaincus qu'il est important de rendre visible ce qui est bien souvent invisibilisé, convaincus qu'il faut faire une mise au point sur ce que vivent dans l'ombre de nombreuses personnes, ils ont décidé de témoigner. De témoigner en parlant et de témoigner en créant, depuis bientôt 2 ans, l'album photo de leur parcours du combattant. Faire la lumière sur des événements qui concernent bien plus de personnes qu'on l'imagine. Faire la lumière et fuir le silence, main dans la main, avec toujours un doigt sur le déclencheur de l'appareil photo, celui qui va capturer l'instant décisif, qui saura en dire long sur les épreuves que l'on traverse. On dit souvent qu'il faut le voir pour le croire. Alors quand les mots ne sont pas entendus ou compris à leur juste valeur, ce sont les images qui prennent le relais. Ces images sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire « Tu vois, ça a existé. » Au revoir podcast, épisode 17, première partie. Estelle et Victor révélaient les difficultés pour devenir parents. Dans cet épisode et pour la première fois dans Au revoir podcast, 2 voix vont s'entremêler. Ces voix, ce sont celles d'Estelle et de Victor. Estelle et Victor vivent à Paris, ils ont 30 ans et ils sont ensemble depuis 6 ans. Estelle est journaliste, Victor, lui, est photographe. Par ailleurs, Victor est déjà papa parce qu'il a une petite fille, Bertille, née d'une précédente union. Mais ça fait déjà quelques années qu'Estelle et lui, eh bien, ils essaient d'avoir un enfant ensemble. Ensemble, ils ont également imaginé un projet visuel autour de leur parcours pour devenir parents. Un parcours long, un parcours difficile que Victor a décidé de photographier afin de rendre public une trajectoire singulière, la leur, qui fait écho à tant de trajectoires invisibilisées et qui méritent d'être montrées. Pour Estelle et Victor, tout a commencé fin 2017.
Alors en fait, je pense qu'on a parlé très vite d'avoir des enfants vu que Victor avait déjà une fille. Donc là, le sujet est venu assez vite de savoir s'il voudrait d'autres enfants ou pas. Clairement, lui voulait d'autres enfants et il était prêt à les avoir rapidement. Moi, pas du tout. Donc c'est plutôt moi qui ai temporisé la chose. Et ensuite, on est parti au Japon pour travailler pour un mois et on avait à ce moment-là on parlait un peu d'enfants et moi j'ai dit en fait je veux profiter du Japon manger des sushis et pas me dire que je suis enceinte au Japon. Je voyais déjà le mois où moi je pourrais rien manger et je le regarderais manger, je serais malade, j'ai dit non, on va pas faire ça. Je suis pas d'accord. Et donc on s'est dit en rentrant du Japon, on commencera à essayer d'avoir un enfant. Mais on était d'accord là-dessus. Je pense, et Victor était d'accord depuis longtemps.
Oui.
Et je suis tombée enceinte au bout de 6 mois, ce qui était pas ce qu'on jugeait déjà pas très rapide. Enfin, ce qui, voilà, parce que du coup Victor avait déjà un enfant. Moi, je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans et j'ai avorté. Donc, on s'était tous les deux dit en fait, ça va marcher. Enfin, voilà, si ça a déjà marché pour l'un et pour l'autre, ça marchera assez vite. Et donc, je suis tombée enceinte au bout de 6 mois, et là, on se dit, bah voilà, enfin, je sais pas, on s'est projeté assez vite, en tout cas, moi, je me suis projetée assez vite dans une grossesse, un bébé, etc.
Très rapidement, Estelle commence à perdre un peu de sang. Perdre un peu de sang en début de grossesse, ça peut être anodin, ça arrive. Dans la moitié des cas, il n'y a rien d'anormal ou de grave, il faut juste être vigilant. Estelle a donc des échographies tous les 15 jours. Régulièrement, malgré ses inquiétudes et des saignements qui persistent, elle entend battre le cœur de son bébé. Mais au bout de 10 semaines de grossesse, les saignements s'accentuent.
Moi, je commençais à me dire que peut-être ça allait vraiment mal parce que je perdais réellement des caillots de sang à ce moment-là. Donc j'étais plus dans un truc, bon, en fait, si ça se trouve quand même, là, on est arrivé à un stade où ça se passe plus bien. Mais donc on a fait une échographie et là le mec qui nous a fait l'échographie qu'on n'avait jamais vu avant nous dit bon ben voilà il y a plus de rythme cardiaque donc on était un peu sonnés parce qu'on s'y attendait pas vraiment non plus. Enfin, ça a été vraiment dur à comprendre déjà parce que pendant toutes les échographies précédentes tout ce qu'on nous disait c'était oui ça arrive de saigner beaucoup et ça arrive à beaucoup de femmes etc. même si réellement je saignais tout le temps quoi. Mais ça arrive et ça veut pas dire que machin et tout ça, tout ça. Bon. Et du coup, on se disait, bon, bah, à un moment, ça va s'arrêter et puis la grossesse va continuer. Et donc, j'ai commencé à pleurer et il nous dit, ah bah oui, mais voilà, c'est pour ça que nos grand-mères, elles disaient rien avant 3 mois. Parce que ça peut toujours s'arrêter. Bon, bah, ça marchera la prochaine fois. Et vraiment, alors que moi, j'étais pas du tout, j'étais encore sous le choc et qu'on n'avait aucune explication même sur qu'est-ce qu'on devait faire maintenant, en fait, et qu'est-ce qui va se passer, de rien, tu vois. On est sortis de là, qui était un cabinet privé. Moi, je pleurais sur le trottoir. J'ai appelé mon frère qui est médecin à l'hôpital en lui disant qu'il y avait plus de rythme cardiaque et qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, il nous avait rien dit et qu'il nous a dit de venir, enfin, d'aller aux urgences de la maternité, quoi, ce qu'on a fait à ce moment-là. Mais c'était, voilà, on était un peu à la fois sous le choc et perdu et sans aucune information sur, enfin voilà, il nous a même pas donné des informations basiques de bon, bah écoutez, vous allez continuer à perdre du sang, ça peut s'évacuer tout seul ou pas, enfin voilà, sur les suites à donner à ça.
Ça a été un moment très violent. Alors moi, je l'ai vécu différemment d'Estelle parce que, en tout cas, la période avant, parce que quand Estelle est tombée enceinte, moi j'avais encore en tête cette histoire des 3 mois. Et moi, j'en avais très peu parlé. Donc, c'est quelque chose que, voilà, j'ai vécu vraiment juste avec Estelle et avec ses proches à elle. Mais autour de moi, j'en avais vraiment très peu parlé. Et donc, en fait, au départ, quand ils nous annoncent ça, moi, j'ai tilté sur le mot nos grand-mères parce que on ne lui avait absolument rien demandé. Mais sur le coup des 3 mois, j'étais presque d'accord avec lui. Enfin, il y avait une partie de moi qui était ouais, c'est vrai, on m'avait dit ça. Et en même temps, j'ai ressenti ce choc-là à l'annonce de la fin de la grossesse. J'ai eu des effets plus longs dans le temps, en fait. Sur le moment, je me suis dit bon, il faut que Estelle se mette à pleurer, il faut que je m'occupe d'elle, il faut qu'on soit proche d'elle. Ok, il nous a pas dit quoi faire, on va essayer de s'organiser, de faire les trucs et tout ça. Je vais essayer de mettre en ordre tout ça. Et c'est juste des semaines après où j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé, la violence de ses paroles. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé, qu'on nous dénie déjà le fait d'être en deuil. J'avais trouvé ça avec le recul, j'avais trouvé ça au mieux très très maladroit, et au pire irrespectueux, mais insultant presque. Donc ouais, ça a été un moment très très difficile à vivre.
Les saignements d'Estelle étaient donc bien le signe d'une fausse couche, qu'on peut aussi nommer arrêt de grossesse ou interruption naturelle de grossesse. C'est moins violent, ça sonne moins faux. Ce processus concerne environ une grossesse sur cinq. À ce propos, il n'y a pas vraiment de chiffres précis. On sait juste que c'est banal, que c'est courant, que ça concerne beaucoup de femmes enceintes. En fonction du terme, de la grossesse ou d'autres éléments cliniques, deux options se présentent la plupart du temps aux femmes qui sont confrontées à cette épreuve. D'une part, la prise de médicaments à la maison qui va provoquer des contractions. C'est ce qu'on appelle la méthode médicamenteuse. D'autre part, il y a aussi la prise en charge chirurgicale qui peut être proposée. Sous anesthésie générale et en hospitalisation ambulatoire, on organise ce qu'on appelle une aspiration endo-utérine. Dans d'autres cas, l'expulsion se fait naturellement, c'est-à-dire sans aucune aide médicamenteuse ou chirurgicale. Certaines femmes d'ailleurs préféreront justement pouvoir vivre leur fausse couche de la manière la plus naturelle possible. Des médecins proposeront d'emblée cette troisième option, tandis que d'autres ne l'évoqueront même pas. S'il faut avoir à l'esprit que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, l'important en fait est d'être la mieux informée possible. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces aspects avec une gynécologue dans un prochain épisode. Mais revenons-en à Estelle et à Victor. Après cette première échographie et après le choc de l'annonce, ils se dirigent vers les urgences où ils sont pris en charge pour confirmer le diagnostic.
Tout est un peu flou parce que moi j'ai fait les trucs un peu de façon automatique, donc je vais aux urgences, bonjour, donc on refait une échographie qui montre qu'il n'y a pas de rythme cardiaque, mais là elle a été beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'elle a déjà l'écran, elle a tourné l'écran vers elle. Elle m'a pas montré l'écran, elle m'a juste dit j'ai confirmé le diagnostic et ça c'était rapide. Enfin voilà, elle s'est pas attardée là-dessus et ensuite on nous a donné rendez-vous du coup pour faire une aspiration le lundi. Et je pense que c'était un jeudi ou un vendredi. Et donc elle nous a dit on va faire une aspiration, ça se passe comme ça, venez à telle heure, à tel endroit et vous pouvez continuer à perdre du sang, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait une fausse couche à la maison pendant le week-end. Et du coup, j'ai perdu l'embryon, les caillots, enfin tout. Et on a été, on a été lundi au rendez-vous, mais uniquement pour faire une échographie de contrôle, voir si tout était bien parti ou pas. Alors du coup, ce qui s'est passé en plus, parce que vraiment, j'étais un peu... Du coup, je l'ai pris dans les mains, l'embryon, et je l'ai pris en photo. Parce que je me suis dit, en fait, c'est quand même très étrange cette affaire. Si ça se trouve, il faut que je leur montre la photo pour qu'ils me disent ce que c'est ou pas. Enfin, j'avais bien une idée que c'était ça et que ça ressemblait à pas à un caillot de sang, en fait. Donc, mais c'est vrai que je me suis retrouvée à faire des trucs un peu bizarres. Et donc, le lundi, quand je leur ai dit, si vous voulez, j'ai pris une photo. Je crois que la gynéco m'a vraiment regardée en me disant, mais personne ne fait ça. Mais après, j'ai trouvé ça plus agréable que tout se passe chez moi, que anesthésie générale et aspiration, et tu te réveilles et c'est plus dans ton ventre alors qu'avant ça l'était. D'un côté, il y a eu un côté, alors c'était assez douloureux et pas très agréable, mais au moins, la boucle était bouclée, quoi. On avait fait cet enfant chez nous et il était parti chez nous, quoi. Donc à un moment donné, que l'embryon sorte, ça terminait la chose, ça rendait les choses concrètes aussi de le voir quelque part. Plus que l'aspiration, je pense.
C'est vrai que ça a été finalement assez important pour nous d'avoir la chose concrètement, de la vivre concrètement, je pense, pour nous aider pour après. Je pense que ça nous a pas mal aidé.
Ça montrait aussi que ça avait existé, quoi.
Ouais. Ouais, il y avait un truc assez fort là-dessus. Oui, on était vraiment tous les deux, elle était dans la baignoire, et on se tenait la main, il y a un truc, je pense que c'est aussi à ce moment-là où j'ai compris que à quel point c'était idiot de parler de fausse couche parce que Estelle a accouché à ce moment-là. Et moi je me suis pas du tout rendu compte de ce que c'était. Alors toi t'as eu le pressentiment, mais je crois que j'ai complètement zappé cette histoire que t'as pris la photo par ailleurs. Tout ça pour dire qu'effectivement on n'était pas du tout préparé. Comme tu posais la question. Non, à aucun moment on nous a dit la fausse couche peut se dérouler là maintenant, la grossesse peut s'évacuer là maintenant chez vous pendant le week-end. Hein, c'était rendez-vous lundi pour l'aspiration. Au revoir. Et par ailleurs, dans ma tête, on s'était pas trop méfié au moment où ça arrivait parce que comme Estelle avait déjà perdu des caillots de sang à la fin de la grossesse, on s'est dit c'est des nouveaux caillots de sang et ça va partir et c'est pas grave et voilà. Je me souviens qu'à ce moment-là, t'as eu particulièrement mal. Et qu'en fait, une fois que c'est passé, on s'est dit, ah, là, il s'est passé quelque chose, là. Là, il y a eu un truc, bizarre, c'était pas attendu, on nous a pas prévenu.
Non, moi, ma limite, c'était, si à un moment vraiment je commence à sentir des douleurs, enfin, à me sentir vraiment mal, on ira aux urgences. Mais à partir du moment où chez moi, ça allait, en plus, je ne me voyais pas attendre aux urgences tout en continuant à perdre du sang. Enfin, je me disais, en fait, c'est pire, autant rester là. Donc, ma limite, c'était le moment où, voilà, si à un moment, je m'évanouis, on va aux urgences. Mais au final, ça a été. Mais non, on ne nous avait pas prévenus.
Prévenu, rien du tout.
Deux jours après sa fausse couche, Estelle retourne au travail. La vie, d'une certaine manière, reprend presque son cours. Mais si tout ressemble à l'avant, avant la fausse couche, rien n'est tout à fait pareil. Les semaines passent, et un mois et demi après la fin de cette grossesse tant attendue, Estelle doit se faire opérer de l'appendicite. C'est à l'occasion de son arrêt maladie qu'elle réalise que quelque chose ne va pas.
Pendant les 15 jours où j'étais arrêtée après l'appendicite, je me suis dit, bon, en fait, ça va pas, je suis au bout du rouleau, parce que j'étais retournée travailler quasiment après la fausse couche, en fait. J'ai eu deux jours d'arrêt, et puis je suis allée travailler, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ça ne passe pas, il faut faire quelque chose. Et puis, tous les gens autour de nous étaient un peu dans un truc, mais tu vas retomber enceinte, dans les 3 mois qui suivent, tout va bien se passer. Bon, et moi, je voyais quand même les semaines qui passaient, la grossesse qui venait pas, etc. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe, que j'avais déjà vue plusieurs années avant, et qui, en fait, fait un peu des massages, de la relaxation, enfin, des trucs très doux, quoi. Et à qui j'ai parlé pendant une heure, où j'ai pleuré pendant une heure, et qui m'a dit, voilà, je vous conseille de faire... vous aviez projeté des choses dans cet enfant, Annette, vous aviez projeté peut-être un prénom, des tas de choses, donc d'écrire ce que vous auriez voulu lui dire sur un papier, et de brûler ce petit papier, ou de faire comme vous voulez, quoi. Et donc, ce qu'on a fait après, le lendemain, je crois... Et donc, on a écrit ce qu'on voulait lui dire, enfin, ce qu'on aurait aimé lui dire, comment on aurait voulu l'appeler, et on a fait brûler ça sur notre terrasse, un peu, tous les deux, dans un pot de fleurs. Et je crois que ça nous a aidé parce que ça a aidé à tourner une page, à dire, c'est passé. Enfin, on clôt ce chapitre, il a existé, et puis voilà, on essaye de passer au prochain chapitre.
Quand Estelle est revenue et m'a parlé de ça, c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Toute cette histoire de rituel, d'enterrement symbolique, allons-y, faisons-le, ça va peut-être nous aider. Après, il faut savoir que moi, de mon côté, en refaisant la chronologie de l'année et demie, voire des 2 ans après, et puis de tout ce qui s'est enchaîné après avec la PMA. J'étais vraiment dans le brouillard. Je suis vraiment dans le brouillard. Il y a beaucoup d'événements que j'arrive pas à mettre dans le bon ordre. Encore aujourd'hui, quand j'y réfléchis, quand je remets les choses, quand j'essaie d'avoir des repères temporels, il y a vraiment des choses que j'arrive pas à remettre dans l'ordre. Je pense que c'est dû à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, la déflagration, elle est arrivée plus tard. La fausse couche, j'en ai parlé à très peu de gens autour de moi, en fait. J'étais tout seul. J'étais tout seul face à une douleur ou à un état, une douleur. Je me reconnaissais même pas le droit d'avoir cette douleur, donc un état d'esprit, un état mental. Je comprenais pas pourquoi j'avais du vague à l'âme. Je comprenais pas pourquoi j'étais mélancolique. Je comprenais pas pourquoi. Les semaines sont un peu passées comme ça dans le brouillard. Et que encore aujourd'hui, j'arrive pas à mettre un ordre, l'ordre qu'il faut là-dedans. Mais je me souviens de ce moment où on s'est retrouvé sur la terrasse. Il y a quand même quelques moments qui m'ont marqué, visuellement, enfin, dans ma mémoire, qui ont été forts. Mais ça.
Mais clairement, je pense que pour nous deux, c'était pas du tout un moment où on pouvait se dire, on vit un deuil périnatal, on a le droit de s'accorder un deuil. Pas du tout, c'est-à-dire que on rentrait dans c'est une fausse couche au premier trimestre, ça arrive à 20% des grossesses, bonne journée, au revoir, quoi. Il y avait pas de place pour les pauvres, ils ont perdu un enfant plus tard dans la grossesse ou ils ont, enfin voilà, il y avait pas, ça n'existait pas publiquement Et ça, c'était pas facile. Et ça a été plus facile beaucoup plus tard quand on s'est dit qu'on avait le droit de dire qu'on avait vécu un deuil et que les gens pouvaient aussi nous le reconnaître comme ayant existé, quoi.
Oui, et puis ce fameux truc dont tu parlais tout à l'heure, le principe de vous allez retomber, enfin Estelle va retomber enceinte dans les prochains mois, ça arrive tout le temps comme ça, je l'ai entendu aussi. Bon, je sais pas en quoi c'est censé nous consoler de quoi que ce soit.
Non, en plus, alors bon, déjà ça s'est pas passé comme ça, mais même si ça s'était passé comme ça, en fait, ça n'efface pas ce qu'on vient de vivre. J'ai découvert par exemple très longtemps après qu'il y avait des groupes de parole consacrés au deuil périnatal. Et que j'avais le droit d'y aller, même si j'avais perdu un enfant au premier trimestre, en fait, ce que je me serais jamais permis de faire, parce que je me serais sentie vraiment comme une intruse qui s'incruste dans la douleur de femmes ou d'hommes qui ont perdu un enfant beaucoup plus tard, voilà. Donc j'y serais jamais allée de moi-même. Mais j'ai découvert plus tard que oui, je pouvais y aller et que effectivement on vivait la même chose, ou en tout cas c'était des émotions similaires.
C'est là tout le problème de la grossesse qui s'arrête au bout de quelques semaines. Ça n'est jamais anodin, mais les femmes et les hommes qui y sont confrontés souffrent souvent d'un déficit de légitimité. D'autant plus lorsque les proches, voire même certains soignants et certaines soignantes, minimisent l'épreuve qu'ils et elles viennent de traverser. Mais dire que c'est banal, une fausse couche, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de tristesse, absence de mal-être, absence de souffrance. S'il y a une absence, c'est seulement celle du bébé qui n'est plus là et qu'on avait imaginé. Oui, le ventre n'a peut-être jamais été vraiment rond, mais dans ce ventre, il y a maintenant le vide et il faut apprendre à vivre avec. Après ce rituel, Estelle et Victor ont le sentiment d'avoir franchi une étape. Bien décidés à avoir un bébé, ils se relancent dans les essais. Mais 6 mois plus tard, Estelle n'est toujours pas enceinte. Alors elle prend rendez-vous avec sa gynécologue qui lui diagnostique ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, aussi appelé SOPK. Selon l'INSERM, le syndrome des ovaires polykystiques touche environ 10% des femmes. Les symptômes sont très variables d'une patiente à l'autre, mais bien souvent, ce dérèglement hormonal provoque des troubles de l'ovulation. C'est même la première cause d'infertilité féminine, rappelle l'INSERM. Estelle se voit donc proposer des cycles de stimulation afin de faciliter son ovulation.
On a commencé à faire des cycles de stimulation simples, avec des rapports programmés. Et sur le 3e mois de ça, je suis tombée enceinte. Et donc, c'était quasiment 1 an après la première fois où j'étais tombée enceinte. Alors que je savais depuis quelques jours que j'étais enceinte, j'ai commencé à perdre du sang. Donc, je me suis dit, ça va pas le faire. Et là, donc, on est retourné aux urgences en rentrant de vacances, parce qu'on était en vacances. Où il m'a dit, bon, à l'échographie, je vois rien, donc soit vous faites une fausse couche, soit c'est une grossesse extra-utérine. Donc là, j'ai prié pour que ce soit une fausse couche, en me disant, ok, bon, au moins, comme ça, c'est réglé, ça veut dire que c'est déjà parti, et puis c'est le tout début, bon, voilà. Et qui nous a dit, revenez dans 48 heures. Et je suis retournée aux urgences le lendemain, parce que j'avais mal, donc le lendemain soir, après le travail. Ils m'ont gardée la nuit, on a refait des échographies, bref, il s'est avéré, au bout de 3 jours, que c'était bien une grossesse extra-utérine, et qu'on allait m'opérer maintenant. Et donc là, là, les choses se sont enchaînées assez vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le temps de penser non plus, vu qu'il y a eu un moment de, en fait, on va vous opérer parce que il y a un risque que la trompe se rompe et que vous fassiez une hémorragie et c'est pire. Donc voilà, ce qui s'est passé et là qui était beaucoup plus agréable, c'est que le chirurgien, le gynéco qu'on a vu, qui est celui qui m'a opéré, était hyper clair, hyper carré, il était très bien, il était à la fois empathique sans être non plus dans un truc larmoyant, mais il était, voilà, il nous a expliqué tout comme ça allait se passer, les possibilités, voilà, et on était quelque part, enfin moi je me suis sentie vachement mieux pris en charge que la fausse couche. Comme j'avais eu l'appendicite moins d'un an avant, j'avais déjà eu une cœlioscopie, et du coup j'avais déjà eu vraiment le côté, la semaine de douleur de ventre, de post-opératoire, aux mêmes endroits exactement, c'est les mêmes cicatrices. Et donc vraiment, quand il m'a dit « on va vous opérer en cœlioscopie », la première chose que j'ai dit c'est « ah non, je veux pas en fait ». J'ai déjà eu la semaine post-appendicite où j'avais hyper mal et où tu peux pas marcher, où tout est compliqué avec le ventre gonflé. Enfin, il y a vraiment eu un truc de « non, j'ai déjà fait, je veux pas ». Mais il n'y avait pas d'autre solution. Et du coup, quelque part, j'étais plus préparée. Enfin, j'avais déjà vécu ça. Donc je savais ce qu'allait m'attendre. Je savais que j'avais passé une semaine allongée, une semaine avec les cicatrices, les douleurs de ventre, etc. Et vraiment, comme c'était pas du tout une grossesse dans laquelle je m'étais projetée, c'est-à-dire qu'à la fois je savais que j'étais enceinte, mais je le vivais pas du tout comme un enfant à naître, quoi. Enfin, c'était donc et quelque part, une fois qu'il m'avait dit, en fait, on va vous retirer la trompe parce que c'est dangereux pour votre vie à vous. Voilà, on est plus dans un truc de survie, de bah oui, il faut que moi je survive. En fait, là, c'est l'important. Et puis, de toute façon, il y a pas de grossesse. Enfin, ça n'évolue pas, ça n'évoluera pas. Donc, je l'ai pas vécu pareil du tout que la fausse couche, dans laquelle je m'étais complètement projetée, etc. Donc c'était pas du tout pour moi la même douleur, la même difficulté, mais pour les gens c'était beaucoup plus concret, quoi.
Par ailleurs, moi je savais pas du tout ce que c'était une grossesse extra-utérine.
Je pensais que ça arrivait vraiment dans des cas très rares, avec des femmes avec des malformations étranges ou avec je ne sais quoi, mais des pathologies.
Ouais. Voilà. Non, je savais pas du tout. Et on a appris un truc qu'on a trouvé formidable. Ça c'est un truc qui nous a beaucoup fait, qui nous a beaucoup
Ça nous a beaucoup fait rire. Dans un moment où on n'était pas au top.
Donc on est dans la salle d'hôpital, enfin dans la chambre d'hôpital et tout. Et là il y a le fameux chirurgien qui vient nous voir et qui nous explique que tout s'est bien passé, qu'il a retiré la trompe, que voilà, on pouvait pas faire autrement que retirer la trompe et tout.
Que donc, c'était bien une grossesse extra-utérine, voilà. Que c'est ça qu'il fallait faire et que tout va bien, voilà.
Et donc nous on lui demande, bon un peu anxieux, on dit ah bon bah tant mieux, ça s'est bien passé, mais donc maintenant il y a plus qu'une trompe, ça divise les chances par deux.
Et là, comment ça marche, quoi?
Et là le mec nous a dit ah non mais là l'autre trompe est mobile.
Et là, vraiment, je l'ai regardé, je me suis dit, OK, il se moque de moi.
C'est quoi ?
Comment ça, elle est mobile ? Et il nous a dit, mais elle se déplace. En fait, elle se déplace d'un ovule à l'autre. Enfin, d'un ovaire à l'autre. Elle est attirée par l'ovaire qui a ovulé. Et là, je me suis dit, bon, je sais pas. C'est les suites de l'anesthésie générale. J'imagine des trucs. Et donc, le lendemain matin, pour la sortie, vient me voir l'interne qui me donne les papiers. Et je lui dis, excusez-moi, mais... est-ce que la trompe, elle se déplace ? Enfin, j'ai pas bien compris. Il m'a dit oui, la trompe est mobile, en fait. Chaque mois, elle va se déplacer. En fait, c'est tout petit, c'est un espace tout petit, et donc elle va à peine se tourner pour aller vers l'autre ovaire. J'ai trouvé ça fascinant. Tellement ça nous paraissait absurde de se dire, mais en fait, à l'intérieur, ça se déplace jusqu'à ce qu'il, quand même, il apporte un schéma pour nous montrer que c'était vraiment tout petit et que, voilà, ça se déplaçait dans un petit espace. Enfin, qu'il n'y avait pas un mouvement que j'allais sentir. Enfin, c'était...
Ouais, je me souviens même qu'on a reposé la question à ton frère après.
Hein, oui.
C'est vrai, ça? C'est pas une sorte de... on ne fait pas une blague, là, au niveau de l'hôpital?
Qui m'a dit oui, on apprend ça en gynécologie. Je dis, ah bon, d'accord.
Ah bon, ça nous a fait rire. Voilà.
Après une première grossesse et une première fausse couche en 2018, Estelle traverse donc l'épreuve de la grossesse extra-utérine en août 2019. Ce type de grossesse touche environ 2% des femmes enceintes. Alors pour expliquer le plus simplement possible les choses, il faut savoir qu'à chaque cycle a lieu en théorie l'ovulation. L'ovocyte, il est expulsé de l'ovaire et rejoint ce qu'on appelle la trompe de Fallope. De la même manière que nous avons deux ovaires, je vous rappelle aussi que nous avons deux trompes. En cas de rapport sexuel ou d'insémination artificielle par exemple, un spermatozoïde peut arriver jusqu'à l'ovocyte pour le féconder. Ensuite, en théorie, l'œuf commence à migrer vers l'utérus pour finalement s'implanter au bout de quelques jours dans la cavité utérine. Sauf que dans le cas d'une grossesse extra-utérine, qu'on appelle aussi grossesse ectopique, l'œuf n'atteint pas l'utérus. Et parfois, il reste dans la trompe, comme ce fut le cas pour Estelle. Plusieurs types de traitements peuvent être proposés. Dans le cas d'Estelle, il y a eu une intervention chirurgicale, une célioscopie, qui consiste à pratiquer de petites incisions de la paroi abdominale. Et c'est ensuite une salpingectomie, c'est-à-dire une ablation de la trompe, qui a été réalisée. Et c'est le lendemain de cette intervention, lorsqu'il vient la chercher à l'hôpital, que Victor lui propose de commencer leur projet photo, dont on parlera plus précisément la semaine prochaine, dans la seconde partie de l'épisode. Suite à cette grossesse extra-utérine, le couple s'apprête à franchir une nouvelle étape. C'est la PMA, la procréation médicalement assistée. C'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'on leur propose pour la première fois de voir une psychologue.
On est retourné voir la gynéco qui nous suivait en ville, Moi, je pense que j'avais l'air à ce moment-là réellement au fond du trou et j'ai commencé à pleurer. Elle nous a dit, écoutez, prenez 3 mois sans... Enfin, faites votre vie pendant 3 mois, on se revoit dans 3 mois, ne faites rien. Moi, à ce moment-là, j'étais là, pas du tout, je veux recommencer tout de suite. Bon, j'ai compris que personne n'était d'accord avec moi. Donc, on a pris 3 mois de calme et de... En tout cas, d'essayer de se reconstruire et se remettre et voilà, ne serait-ce que, je sais pas, faire du sport, faire autre chose et essayer de penser à autre chose. Ce qu'on a plus ou moins réussi à faire. Et ensuite, on est retourné la voir juste avant le Covid, où on a fait 2 inséminations qui n'ont pas marché. Et là, elle nous a dit, écoutez, avec la grossesse extra-utérine et tout ça, peut-être allez, prenez rendez-vous en PMA à l'hôpital. Ce qu'on a fait, et donc on a fait le premier rendez-vous à l'hôpital en post-confinement au mois de mai 2020. On a eu un premier rendez-vous à l'hôpital en PMA, et dans les papiers qu'ils nous donnent, il y a écrit qu'il y a 2 psychologues à l'hôpital qu'on peut contacter. Et donc le premier truc que Victor m'a dit, c'est « Tiens, regarde !» voilà. Et qu'il a demandé à la médecin, c'est « Et les psychologues, du coup, on peut les appeler ?» Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le premier rendez-vous, et 4 jours après, j'appelais la psy de l'hôpital de la PMA. Et du coup, c'est la première psy que j'ai vue réellement et qui était prête à parler de tout et n'importe quoi, enfin en tout cas de toute grossesse, voilà, c'était la psy qui est inclue dans la PMA, enfin qui peut l'être quoi.
Mais qui est super d'ailleurs, enfin.
Et qui est super, etc. Mais c'est vrai que on nous a jamais proposé rien et moi j'avais été voir une psy en ville qu'on m'avait recommandé, qui en fait était psychanalyste, et où ça pas, enfin voilà, que j'ai été voir après la fausse couche, qui m'a demandé quelles étaient mes relations avec ma mère, et j'ai eu envie de dire en fait c'est pas, je suis pas là pour ma mère, enfin je suis là parce que j'ai du mal à vivre cette fausse couche et que voilà, donc j'y suis pas retournée en me disant d'accord, il y a peut-être des choses à dire sur ma mère, mais pas aujourd'hui, c'est pas ça que je viens chercher quoi.
Elle est rentrée complètement vénère cette
situation. Oui, parce que je venais pas, enfin. Il y a beaucoup de choses que je vis mal, mais pas. Enfin, là, c'est pas ça du tout la question, quoi. Donc, la première psy que j'ai vue, c'est celle de la PMA, et j'ai trouvé ça vraiment bien et vraiment utile que ça existe.
Quand on se lance dans la PMA pour faire une fécondation in vitro, le processus peut être long. D'ailleurs, plusieurs mois se passent sans que le protocole puisse véritablement commencer à cause du retard lié à l'épidémie de Covid et au premier confinement. À l'automne 2020, alors que la première stimulation en vue d'une ponction doit commencer, Estelle apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Mais cette grossesse, elle la découvre au moment même où elle fait, en fait, une fausse couche.
Donc, il y a eu une grossesse spontanée qui, pour le coup, s'est arrêtée très vite. A été une fausse couche assez précoce.
Cette grossesse, alors, c'était en octobre dernier.
2020.
Et en fait, c'était juste avant, théoriquement, où on devait commencer le protocole de FIV, donc les injections liées à la FIV. C'est-à-dire que cette grossesse-là, on lui a, avec le recul, on lui a même pas laissé une chance. C'est-à-dire que ça nous avait tellement énervé que ça arrive à ce moment-là, naturellement à ce moment-là, alors qu'il se passait rien naturellement depuis un an et demi, on s'est dit tout de suite ça va faire une fausse couche. Et effectivement, ça fait une fausse couche précoce très rapidement. Et on était juste énervé que ça nous repousse le moment de la FIV, quoi. Il y avait un truc.
Non, après, il se trouve quand même. On lui a pas laissé de chance, mais je me suis rendu compte que j'étais enceinte parce que j'ai commencé à perdre du sang à un moment étrange où j'étais pas censée perdre du sang et je me suis dit c'est bizarre.
Et
j'ai fait un test de grossesse qui était positif où là je me suis dit oula, mais c'est quand même étrange.
Ah oui, je me souviens, on a vu le test de grossesse positif et on a vraiment eu la réaction inverse qu'on aurait dû avoir, quoi. On a vraiment regardé ça, on a fait oh non.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est que ce truc là, encore une fausse couche.
Bon, et après voilà, après ça s'est réglé en 3 rendez-vous à l'hôpital de bon bah oui, il y a un début de grossesse mais il y a pas ce qu'il devrait avoir, voilà. Vous allez faire une fausse couche, etc. Mais ce qui a fait qu'on s'est retrouvé ensuite à l'hôpital à faire un bilan de fausse couche à répétition. Et c'est là que j'ai fait une IRM où j'ai découvert que j'avais un peu d'endométriose, où on a fait des tests génétiques chacun.
Ah, ça va assez
loin. Qui se sont avérés normaux. Mais voilà, on s'est retrouvé dans un nouveau truc de, en fait, là, quand même, il y a eu 3 grossesses. On va vérifier si tout va bien ou pas, ou s'il y a d'autres choses qu'on peut changer, quoi.
En 2 ans, Estelle a donc vécu 1 grossesse extra-utérine et 2 fausses couches. Elle doit donc réaliser plusieurs examens complémentaires pour tenter d'identifier les causes de ces grossesses arrêtées. Elle apprend alors qu'elle souffre d'endométriose à un stade certes peu élevé, mais qui peut expliquer ses problèmes d'infertilité. Avec la PMA, Estelle et Victor ont l'espoir de pouvoir peut-être un jour avoir un enfant ensemble. Début 2021, il y a quelques mois donc, le protocole pour une fécondation in vitro a commencé. Et il y a quelques semaines, une première ponction a permis de recueillir plusieurs ovocytes et des embryons ont pu être congelés en vue d'un transfert qui sera réalisé dans quelques temps. Un tel parcours jalonné de tant d'épreuves, ça change la manière qu'on a de percevoir la grossesse, le projet parental, mais aussi la manière d'interagir avec l'extérieur, notamment quand les autres parviennent, eux, à avoir des enfants.
Bah moi, j'en ai toujours parlé, enfin pas à la terre entière, mais j'en ai toujours parlé à la fois à ma famille proche et à mes amis proches. Donc j'ai parlé de la première grossesse, j'ai parlé des suivantes, et j'ai parlé aussi des rendez-vous qu'on avait. Après, j'ai jamais forcément donné de date à laquelle on faisait l'insémination, par exemple. Mais en tout cas, ils savaient où on en était, ils savent où on en est. Ce qui est compliqué, c'est que moi, je peux être très cash avec les gens que j'aime. Donc, il y a des gens avec qui j'ai été très cash quand ils étaient déplacés ou quand ils comprenaient pas ou quand... Voilà, je me permettais ça, ce que je me permets pas du tout avec tout le monde. Du coup, par exemple, les gens dont je suis très proche, il y a eu plusieurs grossesses à ce moment-là. Et à chaque fois, j'ai pleuré. Et je me suis aussi permise de pleurer devant eux et de dire que j'étais à la fois... heureuse pour eux, mais que c'était trop dur à vivre. A priori, ils s'en sont pas vexés. Personne ne s'en est offusqué. Alors que les gens dont j'étais moins proche et qui savaient plus ou moins un peu de loin que j'essayais d'avoir un enfant, enfin, qui étaient au courant de quelques trucs, c'est arrivé par exemple qu'on m'envoie une photo d'échographie pour me dire que c'était une fille qu'ils allaient avoir et j'ai pas répondu à cette photo d'échographie et j'ai eu vraiment envie de dire en fait c'est pas possible, il y a des trucs que t'as raté parce que les photos d'échographie tu m'envoies pas ça, en fait j'en ai fait plein, je vois très bien à quoi ça ressemble une photo d'échographie de grossesse, je veux pas voir ça, tu m'envoies juste un message pour me dire c'est une fille quoi, mais il faut pas m'envoyer ça. Donc, j'ai pas répondu. Donc, il y a des gens avec qui je me suis un peu fâchée, enfin, avec qui je me suis un peu éloignée parce qu'ils me faisaient pas du bien. Mais après, moi, il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit un peu mes états d'âme et qui sont au courant et qui sont très bienveillants. Et il y a des gens, malheureusement, autour de nous qui ont aussi vécu des fausses couches après et avec qui on a pu en parler beaucoup et où on a essayé de les aider, en tout cas, et de les accompagner, de leur donner un peu les trucs et astuces qui nous avaient aidés.
C'est vrai que le projet... Quand j'ai fini donc par en parler aux amis proches et puis que j'ai parlé du projet photo, après le projet photo était une manière aussi d'en parler sans en parler directement, quoi, de montrer ce que je faisais en photo pour que les gens comprennent d'eux-mêmes.
Et puis malgré tout de raconter tout publiquement parce qu'il y a des choses que des gens savaient mais ils savaient qu'une partie. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui étaient au courant et qui nous ont dit ah je savais pas que c'était, enfin je me rendais pas compte en fait.
Et donc, il y a notamment une amie très proche. Donc, après, une fois qu'elle était au courant de tout ça, c'était, je crois, en début de l'été l'année dernière, que je vois, on déjeune ensemble, à la terrasse d'un café à l'époque. Et on déjeune ensemble. Et puis, à un moment donné, voilà, peu de temps avant de partir, elle se tourne vers moi. Et puis, elle commence à bégayer, à pas être bien. Et puis, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et elle fond en larmes. À ce moment-là, en disant je savais pas comment te le dire, j'avais peur que tu le prennes mal et tout ça, donc j'ai évidemment dit que j'étais super heureux pour elle et c'était, j'avais trouvé ça assez fort, enfin très touchant de sa part aussi de prendre autant de précautions pour m'annoncer qu'elle était enceinte, parce que ça reste quand même d'une manière générale des bonnes nouvelles et on est content pour les gens et que ça fonctionne pour eux et voilà, et c'est tout, c'est juste le principe de base, c'est juste nous en parle pas tous les jours, nous envoie pas des photos d'échographie, nous envoie pas le monitoring jour par jour, enfin on s'en fiche, voilà, t'es enceinte, c'est très bien, c'est très content, je suis sûr que t'as plein d'autres sujets de conversation.
Ce qui me fait penser que le jour où je suis revenue, j'ai la grossesse extra-utérine, j'ai été arrêtée 15 jours post-opération et donc je suis revenue travailler le lundi. Et j'avais un nouveau travail depuis quelques mois, donc où personne ne savait que j'avais été enceinte avant, que voilà, des collègues que je connaissais que depuis quelques mois, etc. Et donc je reviens le lundi matin, et le lundi midi, j'ai une collègue qui dit « Ah, je vais faire un petit pot ce soir ». Je lui dis « Bon, si t'as envie, quoi, enfin je sais pas, voilà. » Et qui annonce qu'elle est enceinte. Et là, je me suis tellement décomposée intérieurement en train de me dire, ah d'accord, donc je reviens de ma grossesse extra-utérine, de mon arrêt, et j'ai envie de surtout parler d'autre chose et d'avoir des gens du travail qui ne parlent pas de grossesse. Et ma collègue qui partage mon bureau, qui est littéralement en face de moi, annonce sa grossesse. Je me suis dit, ouh, ça va bien se passer. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, j'ai dit à Victor, je veux plus y retourner. Je peux y aller. Et le lendemain, en fait, je l'ai pris à part et je lui ai dit, voilà, en fait, écoute, j'étais en arrêt parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Je suis très contente que tu sois enceinte. Mais alors vraiment, je peux pas en parler à tous les déjeuners. Je veux pas, voilà. C'est au-dessus de mes forces. Et elle a été très gentille alors qu'on se connaissait vraiment très peu. Et elle m'a dit, y a pas de souci. De toute façon, je suis au travail. J'ai d'autres sujets de conversation. Moi non plus, ça me passionne pas. Je suis pas qu'une femme enceinte et tout ça. Donc, ça a été cool parce que là j'ai vu quand même le côté oulala, ça va être compliqué, et où vraiment je me suis dit, j'avais mon verre de cidre à la main et je me suis dit, accroche-toi à ton verre de cidre, ne pleure pas, tiens le coup, finis ton verre de cidre et rentre chez toi. Et voilà.
Ouais, mais c'est vrai que ouais, les annonces de grossesse c'est censé être encore une fois toujours quelque chose d'extra positif, et ouais, je sais pas, faudrait, c'est pas mal le principe de, si on en a le courage d'aller voir carrément les gens et de leur dire, bah, en fait, là, j'ai pas envie d'en parler, quoi. J'ai pas envie de parler de ta grossesse, j'ai pas envie de parler du fait que tu vas devenir père, que tu vas devenir mère.
Bah, moi, je m'étais dit que c'était une question de survie, en fait. Je pouvais vraiment pas faire semblant de m'intéresser à, voilà, c'était pas possible.
Et puis, un tel parcours, comme celui d'Estelle et Victor, ça modifie forcément la perception que l'on pouvait avoir de la parentalité. Une parentalité potentielle, virtuelle, invisible, qui est sans cesse questionnée, tout comme le désir d'enfant. Et puis quand deux personnes ont besoin de l'aide de l'hôpital pour avoir un bébé, ça modifie un peu aussi les relations qu'elles entretiennent au sein de leur propre couple.
Au départ, moi, j'étais très contre faire une FIV. Au départ, c'est-à-dire il y a longtemps, quoi. Avant la première grossesse. J'étais vraiment dans un truc, en fait, si ça marche pas, ça marche pas. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce que je pensais, mais je voulais pas... Je me voyais pas à l'hôpital, en fait, dans un truc comme ça. Et on est arrivé, je pense, à un stade où, quand on est arrivé à l'hôpital en PMA, avec un côté... La FIV te permet de ne plus être, toi, en charge de cette partie-là. Avec un côté, en fait, l'équipe, maintenant, c'est plus que nous deux, c'est beaucoup plus de gens autour, et au moins, ça soulage beaucoup, et ça soulage mes épaules, en fait, c'est pas moi. C'est-à-dire que quelque part, si ça marche pas, c'est pas que moi, c'est je peux mettre en cause tout l'hôpital ou tout le monde, mais on est plus dans l'équipe. Et d'un côté, ça, c'est beaucoup plus agréable que les rapports programmés qui sont hyper pesants, et ah bah oui, bah il faut faire l'amour jeudi à 18h et refaire l'amour le lendemain, qui nous ça crée vachement des tensions parce que c'est dur à vivre, et puis c'est pas du tout agréable, c'est pas comme faire l'amour pour faire l'amour dans la vie, quoi. C'est en fait il faut faire l'amour pour faire un enfant aujourd'hui et il faut que ça marche et machin. Ça dissocie un côté bah il y a la vie sexuelle pour le plaisir et il y a l'hôpital qui fait les enfants. Je schématise, mais c'est un peu ça. Il y a plus de pression, en fait, c'est pas nous on gère pas cette partie-là. On la co-gère, quoi. Mais en tout cas, nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et après, à côté, on fait ce que nous dit l'hôpital. Et tout ça n'est pas drôle et n'est pas bon du tout pour la vie sexuelle non plus. Mais en tout cas, on fait... tout le protocole s'est pris en charge autrement que ça repose que sur nous, quoi.
C'est ça. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, nous, on a vraiment vécu l'histoire de l'engrenage, quoi. Le premier truc, quand j'ai commencé à tiquer, c'est quand Estelle est venue avec des tests d'ovulation. Acheter des tests d'ovulation. J'ai fait, ah, là, ça commence à...
Ah ouais, moi, je voulais que ça marche.
Exactement. Il y a un truc qui commence à se mettre en place, là, déjà, ça va... Bon, voilà. En plus, il s'est avéré que, sur toi, c'était complètement foireux, les tests d'ovulation. Le coût des rapports programmés, c'est complètement tu la moi. Je le conseille absolument à personne. Enfin, en tout cas, je trouve que ça enlève beaucoup beaucoup de la spontanéité et des rapports amoureux, des rapports charnels, de tout ce qu'on veut. Et après effectivement l'hôpital ça aide à prendre du recul. Oui, c'est non mais en fait Estelle l'a très bien expliqué, hein. C'est effectivement ça permet de séparer les deux choses, de séparer le côté procréation et le côté plaisir. Mais sans omettre de toute façon que Oui, le fait de faire un parcours PMA, le fait que bah qu'il y ait ça qui nous pèse régulièrement sur l'esprit, le fait que bah les hormones c'est pas très excitant hein,
ni pour hormones c'est pas bon pour la libido. Hein.
Les hormones c'est pas bon pour la libido. De toute façon la vie sexuelle est impactée par ça. Et en fait le plus important de notre point de vue à ce moment-là, c'est vraiment la tendresse. Enfin, c'est vraiment qu'on comprenne que notre amour ne réside pas uniquement dans les rapports sexuels, mais ça on le savait quand même déjà. Mais là, dans ces moments-là, c'est vraiment important de montrer, de la tendresse essentiellement, des contacts, d'être des câlins, quelque chose de s'envelopper de tout ça. Et même si les rapports sexuels sont moins nombreux qu'avant, mais là, le fait que la première partie de la fille, la ponction et tout ça, se soit si bien passé, c'est vraiment ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une sorte de soulagement comme ça à ce niveau-là, parce que là il y a grosso modo plusieurs potentialités d'enfants qui sont congelés quelque part, et donc ça veut dire que pendant plusieurs mois voire plusieurs années on n'aura plus besoin de passer par ce protocole-là. Il y a quelque chose d'assez rassurant
après,
là-dessus.
Il faut que ça marche, mais disons que marche, oui, en mais... plus non, ça fait qu'on a une bonne nouvelle.
En plus on a une bonne nouvelle.
Des bonnes nouvelles, alors que on n'était pas sur une série de bonnes nouvelles.
Non, pas du tout. Donc moi, je suis père d'une fille qui a 10 ans maintenant, donc j'ai un rapport à la paternité. Enfin, je sais ce qu'est être père. Mais effectivement, ma paternité, moi, c'était une grossesse qui était inattendue. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait un peu du jour au lendemain. Et c'est parti, c'est le grand 8. Et voilà, et donc j'adore ma fille et on est très proches et c'est super. Le fait de passer par toutes ces épreuves là aujourd'hui pour essayer d'avoir un enfant, c'est complètement différent, parce que avec Estelle, c'est vraiment un projet qu'on a monté, et j'ai découvert que on pouvait être potentiellement père, on pouvait être père d'enfants juste en se projetant dans des grossesses. Qu'on pouvait à chaque grossesse, à chaque début de grossesse, qu'on pouvait commencer à se projeter, à tisser des fils d'un futur potentiel, à créer des mini univers, des mini espaces dans lesquels ça y est, là on est père de quelqu'un, d'essayer de s'imaginer comment notre vie aurait été organisée différemment à ce moment-là, si cette grossesse était allée jusqu'au bout, si cette grossesse était allée jusqu'au bout, si cette grossesse était allée jusqu'au bout. Donc j'ai vraiment j'ai un rapport devenu un peu différent avec la paternité, et je pense que je serais pas vraiment le même père avec l'enfant qui va naître qu'avec ma fille qui est née il y a 10 ans. Voilà, je trouve ça le deuil périnatal d'une manière générale, qu'il soit très léger ou très ancré, nous fait avoir des expériences de parentalité qu'il faut accepter et qu'il faut intégrer à soi, à son histoire et aux histoires qu'on va tisser ensuite avec ses enfants.
On s'est posé des questions sur la maternité et la paternité, sur pourquoi on voulait un enfant, beaucoup plus que des gens où ça marche, qui essayent d'avoir un enfant, qui ont un enfant, et on a beaucoup plus réfléchi à ce qu'on faisait ou ce qu'on faisait pas, ou pourquoi on le faisait, comment on voulait le faire, même peut-être un peu trop. Mais c'est pour ça aussi que ça met le couple clairement à rude épreuve, et que des couples se séparent, parce qu'en fait il y a des moments où t'es vraiment poussé à l'extrême de ce que t'es capable d'endurer ou pas, de ce que l'autre est capable d'encaisser et de comment il le vit, il le reproche ou pas. Alors on n'a jamais été en conflit, enfin on s'est jamais reproché des choses par rapport aux grossesses, mais il y a quand même des moments où on vivait les choses différemment, en tout cas on vivait des douleurs différentes à des moments différents quoi, donc et ça c'est normal, c'est comme tout le monde.
Cette première partie de l'épisode 17 touche à sa fin. Et je vous remercie, Estelle et Victor, d'avoir livré sans tabou votre histoire. Je vous rappelle qu'Estelle et Victor mènent de front deux projets. Celui d'avoir un enfant et celui de documenter photographiquement ce long parcours qui les mènera, on l'espère, à ce bébé tant désiré. La semaine prochaine, nous les retrouverons donc pour parler plus précisément de ce travail photographique initié par Victor. Un travail nommé cicatrices, au pluriel. Ces cicatrices psychologiques laissées par les fausses couches. Ces cicatrices laissées sur le ventre d'Estelle par l'intervention chirurgicale. Ces cicatrices mentales causées par l'attente, par la déception. Ces cicatrices multiples révélées par les photographies de Victor. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie de cet épisode avec Estelle et Victor et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.